Chapitre 5 Les voies de la grâce pour délivrer de la loi. Le chapitre 3 présente la mise de côté de la chair par l'opération de l'Esprit en nous et la condamnation du péché par l'œuvre de Christ pour nous. Chapitre 3, versets 6, 7 et 14. Au chapitre 4, dans l'histoire de la femme auprès de la fontaine, nous apprenons le moyen d'être délivré pratiquement du pouvoir du péché par une vie nouvelle vécue dans la puissance de l'Esprit. Le croyant n'est ainsi plus tenu de servir le péché. Comme l'apôtre peut le dire, « La loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Romains 8, verset 2. Le chapitre 5 place devant nous la voie de la délivrance pratique du principe de la loi et la faiblesse de la chair. Par la puissance du Fils de Dieu, l'homme est relevé de la faiblesse amenée sur lui par le péché et délivré de la loi qui ne peut l'aider. Le chapitre comporte quatre divisions principales. D'abord, au réservoir, versets 1 à 9. Deuxièmement, le repos de Dieu obtenu par la délivrance de l'homme, versets 9 à 16. Troisièmement, la gloire de la personne qui assure la délivrance de l'homme et le repos de Dieu, versets 17 à 29. Et enfin, les différents témoignages à la gloire de Christ, versets 30 à 47. Versets 1 à 9. L'histoire de l'homme au réservoir ou la délivrance de la loi. Citation de l'Écriture. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda, ayant cinq portiques, dans lesquels était couchée une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Car, à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie qu'il fût pris. Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et sachant qu'il était dans cet état-là déjà depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui dit « Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir. Et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Et il prit son petit lit et marcha. Or, c'était sabbat ce jour-là. Fin de citation. La scène du puits de Sichar avait servi à montrer comment Dieu délivre de la puissance du péché. Maintenant, le réservoir de Bethesda va nous présenter la manière dont Dieu délivre de la loi. La Samarie et sa population corrompue placent devant nous le besoin d'être délivrés du péché. Jérusalem et les Juifs religieux sont employés pour nous parler du besoin d'être délivrés de la loi. Dans les cinq portiques du réservoir, une grande multitude de malades étaient couchés. Il y avait des aveugles, des boiteux ou encore des gens qui avaient des membres secs et faibles. Mais tous avaient besoin de guérison. Ces malades attendaient autour d'un réservoir où pouvait être obtenue la bénédiction qui leur était si désespérément nécessaire. À une certaine saison, dans la providence de Dieu, un ange agitait l'eau et le malade qui, le premier, entrait dans le réservoir après que l'eau avait été agitée, recevait la bénédiction. Deux points sont donc mis en évidence. D'abord, il était possible d'obtenir une bénédiction au réservoir. Secondement, celle-ci ne pouvait être acquise que par les efforts fournis par le malade. Le réservoir devient ainsi une image frappante de l'homme sous la loi. Dans le système légal juif, comme dans la providence de Dieu, l'homme peut être béni. Mais la bénédiction sous la loi, ou dans la providence de Dieu, ne peut être obtenue que par les propres efforts de l'homme, ce qui suppose de la puissance en lui. De ce fait, sous la loi, l'homme qui se trouve dans l'état le plus misérable et qui, par conséquent, a le plus besoin de la bénédiction, est le moins capable de l'obtenir. La maladie dont il doit être guéri le prive de la puissance nécessaire pour profiter du moyen de guérison. Telle était la triste condition de l'homme infirme depuis 38 ans. Quant à nos besoins spirituels, nous nous trouvons dans la même situation que cet homme avec ses besoins physiques. La puissance du péché dont il nous faut être délivré nous a enlevé le pouvoir d'obtenir la délivrance par nos propres efforts. Pendant de longues années épuisantes, l'infirme avait lutté pour obtenir la bénédiction, mais en vain. Enfin, il est amené au point où il confesse qu'il a besoin d'un sauveur. Il lui fallait être délivré de ses luttes légales pour acquérir la bénédiction, et il lui fallait de la force contre ce qu'il avait porté jusque-là. En réponse à la question de Jésus, il dit « Seigneur, je n'ai personne qui me jette dans le réservoir. » Il reconnaît sa faiblesse complète, ainsi que la futilité de tous ses efforts, et, par conséquent, la nécessité de l'intervention de quelqu'un d'autre pour le tirer de son triste état. Aussitôt qu'il cesse de lutter et cherche un libérateur, il découvre qu'un sauveur est là. Le Seigneur dit « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » L'homme est délivré de ses propres efforts pour acquérir la bénédiction souhaitée, et ainsi, par la puissance d'un autre, il est guéri et rendu capable de porter ce qu'il avait porté. L'infirme est ainsi une image frappante de l'homme décrit en Romains 7, qui avait le vouloir de faire le bien, mais n'en avait pas le pouvoir. Toutefois, quand il découvre que tous les efforts légaux pour se libérer des convoitises sont vains, et qu'il s'écrie « Misérable homme que je suis, qui me délivrera ?» Il réalise aussitôt qu'un sauveur est là, et il peut dire « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Nous trouvons ainsi en Christ celui qui nous délivre de nos efforts légaux et nous rend capables de vaincre la chose même dont nous étions esclaves. Il faut toutefois remarquer soigneusement ce qu'il convient d'entendre par « délivrance de la loi ». Le principe de la loi veut que nous soyons victorieux par ce que nous faisons. L'homme du chapitre 7 des Romains cherchait à agir selon ce principe. Il luttait pour vaincre ses convoitises par ses propres efforts. D'une manière pratique, être délivré de la loi signifie que nous sommes délivrés de nos propres efforts. Nous sommes affranchis de la lutte épuisante pour vaincre la chair et la puissance du péché. La délivrance dont nous avons besoin est non pas simplement celle de nos mauvaises dispositions et convoitises, mais la délivrance de nos propres efforts pour les vaincre. Alors, au lieu de lutter contre nos penchants et nos convoitises et de subir de continuelles défaites, nous regardons au Seigneur et trouvons en lui un sauveur. Le principe du réservoir est « Aide-toi et Dieu t'aidera ». Mais Christ montre qu'il aide celui qui reconnaît son impuissance totale. La puissance est en Christ, la délivrance dépend du Sauveur. Versets 9 à 15. Le repos de Dieu atteint par la délivrance de l'homme. Citation de l'Écriture. Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son petit lit et marcha. Or c'était sabbat ce jour-là. Les Juifs donc dirent à celui qui avait été guéri, « C'est un jour de sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton petit lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit, « Prends ton petit lit et marche. » Ils lui demandèrent donc, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton petit lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était retiré de là, une foule se trouvant dans ce lieu. Après ces choses, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu es guéri, ne pèche plus, de peur que pis ne t'arrive. » L'homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Fin de citation. Après la guérison de l'homme, nous lisons « C'était sabbat ce jour-là ». La signification du sabbat est « repos du travail ». Ainsi, lors de la création, Dieu se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il fit. Genèse 2, verset 2 et Exode 20, verset 11. Le repos de la création a été interrompu par le péché. Et maintenant, il ne peut pas y avoir de repos pour Dieu ou pour l'homme tant que celui-ci est sous la puissance du péché et de la mort. Quand, par l'œuvre et la puissance de Christ, l'homme sera délivré du péché et guéri, ce jour-là sera le vrai sabbat. Ce repos ne peut pas être atteint par les efforts de l'homme sous la loi. Celle-ci disait « Fais ceci et tu vivras ». Mais l'homme n'a pas gardé la loi et il ne le pouvait pas. Sa tentative de le faire n'a fait que manifester l'horreur du péché, de même que son entière faiblesse et, par conséquent, son incapacité d'obtenir le repos de Dieu par ses propres œuvres. Néanmoins, ignorant la vraie signification du sabbat, l'homme insiste sur l'observation extérieure de ce jour afin d'acquérir une réputation religieuse. Mais, tout en mettant l'accent sur son observation extérieure, l'homme est complètement indifférent au péché qui a troublé le repos. La bénédiction du repos sabbatique est pour un peuple qui garde la loi, non pas pour celui qui la transgresse. L'homme peut se satisfaire de se reposer en présence du péché et de la misère qu'il entraîne. Dieu ne peut pas se reposer là où le péché et la misère existent. Sa sainteté exige qu'il s'occupe du péché. Son amour le pousse à travailler pour soulager le pécheur. La réponse de l'homme à ses opposants juifs est convaincante pour quiconque n'est pas rempli d'inimitié à l'égard de Christ. « Celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit, prends ton petit lit et marche. » Celui qui avait eu la puissance infinie de soulager sa misère lui avait donné l'autorisation de porter son lit le jour du sabbat. Il fallait bien être animé par la méchanceté pour mettre en question l'autorité de celui qui avait une telle puissance. Immédiatement, ses contradicteurs demandent avec un mépris apparent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton petit lit et marche » ?» Quelle que soit leur pensée, il est vrai que tout gravite autour de la question « Qui est cet homme ?» Elle se pose aujourd'hui encore. Qui est cette personne glorieuse, pleine de grâce et de vérité, qui est venue pour demeurer au milieu des hommes ? Toute bénédiction pour l'homme dépend de la gloire de sa personne, placée devant nous, d'une manière si bénie dans les versets qui suivent. L'homme lui-même ne savait pas qui c'était, car, traversant le pays comme un étranger, Jésus s'était retiré de là, une foule se trouvant dans ce lieu. Il n'était pas ici pour bénir la nation comme telle, parce qu'elle l'avait déjà rejeté et s'était opposée à lui. Il cherchait ses brebis pour les sauver et les appeler hors de la nation. Ainsi, le Seigneur suit l'infirme guéri et le trouve dans le temple. Il semble que le cœur de cet homme avait été touché par la bénédiction reçue, car immédiatement, il se rend dans le temple pour louer Dieu. Le Seigneur lui fait savoir qu'au-delà de la maladie du corps, il y avait eu un péché commis, et que le péché entraîne des conséquences gouvernementales. Aussitôt, l'homme s'en va et annonce aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il agissait probablement en toute simplicité, ignorant la méchanceté de ces gens et pensant qu'eux aussi désiraient connaître cette personne merveilleuse. Manifestement, l'infirme guéri était rempli de l'œuvre puissante qui avait été opérée, puisqu'il la mentionne à deux reprises, versets 11 et 15. Mais eux sont occupés du mépris qui avait été jeté sur leur orgueilleuse observation du sabbat. À cause de cela, les Juifs persécutaient Jésus et cherchait à le faire mourir parce qu'il avait fait ces choses en un jour de sabbat. Versets 17 à 31. La gloire de la personne qui délivre l'homme et assure le repos de Dieu. Citation de l'Écriture. Mais Jésus leur répondit : Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. À cause de cela, donc, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jésus donc répondit et leur dit, « en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père. Car quelque chose que celui-ci fasse, cela, le Fils aussi de même le fait. Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car, comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Fin de citation. Les Juifs avaient demandé « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton petit lit et marche » ?» Nous allons voir maintenant la gloire de celui qui peut délivrer de la puissance du péché et de l'esclavage de la loi et introduire le repos de Dieu. Si sa gloire est manifestée, c'est afin que tous honorent le Fils. Le Seigneur commence ce discours en disant « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille ». Des paroles d'une signification très profonde sur lesquelles il vaut la peine de s'arrêter, car elles révèlent la gloire de Christ comme Fils et répondent ainsi à l'objection des Juifs qu'il avait fait ces choses en un jour de sabbat. Quel est le caractère des œuvres du Père et du Fils, pouvons-nous demander? Au cours de l'histoire du monde, les œuvres des hommes ont été caractérisées par la violence et la corruption. La plus grande puissance de l'homme se manifeste dans l'invention de moyens pour détruire la vie. Cette scène à Jérusalem prouve le caractère des œuvres humaines. En effet, à ce moment, les Juifs cherchaient à faire mourir celui qui venait de relever un homme d'un lit de mort. En contraste avec les œuvres des hommes, celles du Père et du Fils ressuscitent les hommes d'entre les morts et les introduisent dans la vie et la bénédiction. De plus, le Père avait travaillé jusqu'à maintenant. Certes, le Père n'est révélé comme tel que lors de la venue du Fils dans le monde, mais derrière tout ce que Dieu a fait dans le monde depuis le commencement du temps, nous pouvons discerner maintenant la main du Père travaillant en accord avec le propos et la grâce de son cœur, afin de soulager l'homme de la présence du péché et de la mort. Nous pouvons ainsi suivre le travail du Père lors de la promesse dans le jardin d'Éden, dans ses voies envers Abel et Hénoc au déluge, dans les promesses aux patriarches, comme aussi dans les déclarations des prophètes. Puis le Seigneur ajoute « Et moi je travaille ». Cela manifeste la gloire de sa personne. Les Juifs interprètent très justement ces paroles du Seigneur comme signifiant qu'il était égal à Dieu. Elles étaient l'affirmation de sa divinité et, par conséquent, la révélation de la gloire de sa personne. Elles montraient l'égalité du Fils et du Père dans la mesure où tout ce que le Père fait, le Fils aussi de même le fait. De plus, le Fils ne travaille pas indépendamment du Père. Tout est fait dans un parfait accord, comme mu par la même pensée, la même affection, car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même. Étant devenu homme, le Seigneur prend néanmoins soin de maintenir tout ce qui est juste et parfait dans une telle condition. Ainsi, tout en affirmant sa gloire comme étant égal au Père, il dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Bien qu'égal au Père, il reçoit tout du Père. » L'égalité des personnes divines ne signifie pas l'indépendance entre les personnes divines, comme s'il y avait deux dieux. La coexistence de deux êtres suprêmes et tout-puissants serait une impossibilité. Aussi, le Seigneur peut-il déclarer « Quelque chose que celui-ci, le Père, fasse, cela, le Fils aussi de même le fait. » Toutefois, le fait que le Fils ne fait rien de lui-même, sinon les choses que le Père lui montre, manifeste clairement que tout ce que le Fils fait est la révélation du Père. Si les Juifs voyaient le Fils, ils voyaient le Père. S'ils rejetaient le Fils, ils rejetaient le Père. Ce passage ne présente pas seulement la gloire du Fils, mais nous dit que dans tout ce qu'il faisait, il présentait le Père. Au chapitre 4, nous sommes amenés au Père par la fontaine d'eau vive jaillissant en vie éternelle, et nous adorons. Ici, le Père est placé devant nous dans la personne du Fils. Le Père aime le Fils. Cette déclaration montre qu'il y avait sur la terre un homme digne de la manifestation de l'amour du Père. Dire que le Père aimait un saint, même le plus grand d'entre eux, bien que parfaitement vrai, ne présenterait pas d'une manière adéquate la grandeur de l'amour du Père. Les hommes prouvent la pauvreté de leur amour par la petitesse des objets sur lesquels ils placent souvent leurs affections. Plus l'objet de l'amour est grand, plus grand aussi est le caractère de l'amour. Dans le Fils, toutes les qualités morales se trouvent en perfection. L'amour du Père est si grand qu'il ne peut pas être satisfait par un objet moindre que le Fils. La gloire du Fils est montrée ensuite sous une autre forme. Ses œuvres font connaître sa gloire. Il avait déjà changé l'eau en vin, guéri le fils du Seigneur de la cour et relevé l'infirme au réservoir. Il s'agissait d'œuvres liées à la bénédiction de l'homme sur la terre. Il existe cependant des œuvres plus grandes que le Père réserve pour le Fils, des œuvres qui dépassent les frontières de la mort et sont en relation avec la vie éternelle. Le Seigneur va montrer que les œuvres plus grandes sont celles de la résurrection, de la vivification et du jugement. Ces œuvres plus grandes affecteront tous les hommes, croyants et incrédules. Les croyants seront ressuscités et vivifiés, les incrédules et les opposants, tels les Juifs auxquels le Seigneur parlait, tomberont sous le coup de son travail inaccoutumé de jugement. Vivifier signifie donner la vie, une vie qui vit à Dieu. Dans un sens spirituel, le croyant est vivifié maintenant. Il est rendu consciemment vivant à Dieu, hors d'un état dans lequel il était spirituellement mort à Dieu. Colossiens 2, verset 13. En outre, la vivification se rapporte non seulement à l'âme du croyant, mais aussi à son corps mortel qui, à la venue de Christ, sera entièrement délivré de la mort afin de revêtir l'immortalité. Romains 8, verset 11. 1 Corinthiens 15, verset 53. Les incrédules seront ressuscités d'entre les morts. Il n'est pas dit qu'ils seront vivifiés. Si, comme les Juifs, les hommes refusent d'honorer le Fils comme étant égal au Père, ils devront l'honorer en le rencontrant comme juge. Le refuser en tant que Fils, c'est passer à côté de la bénédiction. Le rencontrer comme juge scellera leur destin. Mais le Père veut que son Fils soit honoré, ou comme Fils, ou comme juge. Il est décrété que tous honoreront le Fils. Les âmes vivifiées dans la puissance d'une vie nouvelle trouvent leur joie à le reconnaître comme le Fils. Les méchants seront contraints de le reconnaître comme tel dans le jugement. De plus, ils seront jugés non seulement pour avoir rejeté le Fils, mais parce qu'en agissant ainsi, ils ont aussi refusé le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Dans les versets qui suivent, le Seigneur distingue entre la mort morale et la mort physique. Le grand fait lié à la mort est la séparation. Il peut s'agir de la séparation de l'âme et du corps, comme dans la mort physique, ou de la séparation entre Dieu et l'âme en ce qui concerne la mort morale. Dans les versets 24 à 27, le Seigneur aborde cette dernière d'abord. Il montre comment des êtres morts à Dieu dans leurs fautes et dans leurs péchés peuvent être vivifiés et indique que ceux-ci entendent sa parole et croient le Père qui l'a envoyé. Non seulement ils échappent au jugement, mais ils ont la vie et, vivant de cette vie, ils passent de la condition dans laquelle ils étaient morts à Dieu à un état dans lequel ils vivent à Dieu. Ils sont passés de la mort à la vie. La responsabilité d'écouter et de croire incombe au pécheur, mais ces versets présentent plutôt l'acte souverain du Fils dans la vivification de ceux qui sont morts moralement. Ils entendent la voix du Fils de Dieu et vivent. Entendre la voix du Fils de Dieu ne signifie pas simplement écouter certaines paroles qui ont été prononcées par le Seigneur. En Acte 13, verset 27, nous apprenons que les habitants de Jérusalem entendaient les paroles même des prophètes chaque sabbat, et pourtant, ils ne connaissaient pas la voix des prophètes. Il est donc évident que nous pouvons entendre les paroles et ne pas discerner la voix. Encore, en 1 Corinthiens 14, verset 10, nous lisons « Il y a je ne sais combien de genres de voix dans le monde, et aucune d'elles n'est sans son distinct. » La voix est par conséquent la force réelle, le son distinct des paroles, le message contenu dans les paroles. La signification de la voix du Fils de Dieu est la révélation de Dieu en amour, agissant en grâce souveraine à l'égard de l'homme. Ainsi, la voix représente ce qui est spécial et propre au témoignage rendu par une personne. Les prophètes avaient une voix, ce qui était particulier à leur témoignage. Jean le baptiseur parle de lui-même comme d'une voix. C'était ce qui avait une importance particulière dans son témoignage. Il y a ce qui est absolument unique et propre à la voix du Fils de Dieu, et ses brebis écoutent sa voix. Chapitre 10, verset 3. Lorsque le sens propre de la voix du Fils de Dieu est entendu, l'âme vit. Ceux qui l'auront entendu vivront. Ceci passe du domaine de la mort à celui de la vie où Dieu est connu. En outre, le Fils de l'homme a l'autorité d'exercer le jugement. Les hommes rejettent Christ comme Fils de Dieu et cherchent à le faire mourir comme Fils de l'homme. Dieu veut qu'il soit honoré à la fois comme Fils de Dieu et comme Fils de l'homme par ceux qui l'ont rejeté. Cela ne peut se réaliser qu'en jugement, vu qu'ils l'ont refusé. Aussi exerce-t-il le jugement tant comme Fils de Dieu que comme Fils de l'homme. Versets 22 et 27. Au verset 24 à 27, nous trouvons l'effet présent produit quand la voix du Fils de Dieu est entendue. Elle conduit à la vie. Au verset 28 et 29, le caractère de la voix et l'effet sont différents. Elle aura un effet physique effectif en ce qu'elle fera sortir les morts de leur sépulcre. On a dit qu'avec Dieu, l'aspect moral vient toujours en premier et ce qui est physique suit. Au verset 25, lorsqu'il est parlé des croyants, nous lisons « Ceux qui l'auront entendu, la voix du Fils de Dieu, vivront. » Ici, au verset 29, qui inclut croyants et incrédules, la vie n'est pas mentionnée, mais il est simplement dit que « ceux qui entendront sa voix sortiront ». Il y a deux résurrections, la résurrection de vie et celle de jugement. La question de savoir à laquelle des deux nous avons part est présentée ici comme dépendant de motifs moraux, faire le bien ou faire le mal. Elle n'est pas placée sur la base de la foi ou de l'incrédulité. Il est vrai que nul homme ne peut pratiquer le bien indépendamment de la foi en Dieu. Et aussi, ce que Dieu appelle faire le bien peut être très différent de ce que l'homme considère comme tel. Là où la vie se trouve, elle se manifeste pratiquement en faisant le bien. Tant la vie que le jugement demandent la résurrection. Pour que la vie puisse être vue et goûtée dans sa sphère propre, il faut que le corps soit ressuscité des morts. Pour que l'homme puisse être jugé, il doit lui aussi être ressuscité des morts. La résurrection est une nécessité pour faire connaître la gloire de Christ. Versets 30 à 47. Les différents témoignages à la gloire de Christ. Citation de l'Écriture. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous, vous avez envoyé auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais moi, je ne reçois pas témoignage de l'homme, mais je dis ces choses afin que vous, vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe ardente et brillante, et vous, vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres même que je fais, rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. Jamais vous n'avez entendu sa voix, ni vu sa figure, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous. Car celui-là que lui a envoyé, vous, vous ne le croyez pas. Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais, et je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un de l'autre, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, Moïse, en qui vous espérez. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Fin de citation. À partir de ces versets, nous trouvons la présentation par le Seigneur des témoignages variés à la gloire de sa personne, des témoignages qui laissent ceux qui rejettent Christ sans excuse. Certes, il y avait le témoignage du Seigneur à lui-même. Il ne s'agissait pas simplement du témoignage d'un homme qui parlait et agissait selon les pensées de son propre esprit ou de quelqu'un qui cherchait à imposer sa propre volonté. C'était le témoignage de celui qui avait pris la place de l'homme parfaitement dépendant. En accord avec cette place, il ne pouvait rien faire de lui-même. Derrière son témoignage, il y avait la vie cachée de communion avec le Père et de dépendance du Père. Aussi peut-il dire « Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Son jugement n'était pas formé par ce qu'il entendait des hommes, ni faussé par la recherche de sa volonté propre. Trop souvent, nos jugements sont défectueux parce que nos esprits sont influencés par les hommes et affectés par l'opération de nos volontés. Toutefois, malgré sa perfection, son propre témoignage en lui-même ne serait pas valide selon la loi qui dit « Le témoignage de deux hommes est vrai ». Quelqu'un a dit « Le témoignage d'un homme pourrait être vrai, absolument, tout aussi vrai en soi que celui de deux. » Mais il ne serait pas vrai de la même manière pour d'autres. Il demanderait à être confirmé. Pour cette raison, malgré la justesse de son jugement et la pureté de ses motifs, il ne demande pas aux hommes de croire simplement en lui sur son propre témoignage. Le Seigneur va nous donner quatre autres témoignages. Premièrement, le témoignage de Jean le Baptiseur, versets 32 à 35. Deuxièmement, le témoignage de ses œuvres, verset 36. Troisièmement, le témoignage du Père lui-même, versets 37 et 38. Quatrièmement, le témoignage des Écritures, versets 39 à 47. Jean le Baptiseur a rendu témoignage à Christ et à la vérité, et son témoignage était vrai. Le Seigneur n'avait pas besoin du témoignage des hommes, mais, dans sa grâce, pour venir à la rencontre des Juifs, en vue de leur salut, il mentionne le témoignage de Jean. De son vivant, Jean était une lampe ardente et brillante au milieu des ténèbres qui ont précédé la venue de Christ. Et les hommes ont voulu se réjouir pour un temps à sa lumière, car ils le tenaient pour un prophète. Luc 20, verset 6. Toutefois, il existait un témoignage plus grand que celui de Jean. Les œuvres que le Père lui avait données à faire, les grands signes de l'Évangile selon Jean, qui étaient l'accomplissement des œuvres du Père, verset 17, rendaient témoignage à la gloire de sa personne comme l'envoyé du Père. De plus, le Père lui-même avait rendu directement témoignage à la gloire de sa personne. Au baptême, la voix venant des cieux avait dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » En ce qui concernait les opposants, ce témoignage avait été absolument vain. Bien que le Père ait parlé, ils n'avaient jamais entendu sa voix. Pour eux, lorsqu'il parlait, ce n'était que du tonnerre. Il était évident que sa parole ne demeurait pas dans leur cœur, car ils ne croyaient pas celui qu'il avait envoyé. Enfin, il y a le témoignage des Écritures dont les Juifs se vantaient, estimant avoir en elles la vie et la bénédiction. Il ferait certes bien de sonder les Écritures, car elles rendent témoignage de Christ. Hélas, tout en se glorifiant des Écritures, ils ne voulaient pas venir à celui dont elles parlaient et en qui seul ils auraient trouvé la vie et la bénédiction. Le Seigneur dit non pas « Vous ne pouvez pas venir », mais « Vous ne voulez pas venir ». Il est vrai que l'homme est mort dans ses fautes et ses péchés et ne peut pas venir. Il est également vrai qu'il vit dans ses péchés et ne veut pas venir. En invitant les hommes à venir à lui, le Seigneur avait pour motif non pas de recevoir de la gloire des hommes, mais que ceux-ci obtiennent la bénédiction de Dieu. Le fait qu'ils ne voulaient pas venir à Christ montrait leur condition et prouvait que l'amour de Dieu ne signifiait rien pour eux. Ils n'avaient pas place dans leur cœur. Le Seigneur était venu au nom de son Père présenter l'amour du cœur du Père. En refusant de recevoir Christ, il rejetait un témoignage qui, tout en révélant l'amour du cœur du Père, condamnaient totalement la méchanceté et l'égoïsme de leur propre cœur. Ce rejet de Christ les exposerait à l'influence terrible de l'Antichrist qui viendra en son propre nom. Il flattera le désir de grandeur, de puissance et de gloire des hommes. Il ne soulèvera aucune question quant à leur état de pécheur. Il n'exigera aucun changement moral en eux, mais leur demandera seulement de lui donner la puissance et la gloire. Ils recevront cet homme répondant si complètement à leur propre cœur. Du fait de leur condition morale si basse, il leur était impossible de croire en Christ et de recevoir la vérité. La recherche de l'honneur et de l'estime des hommes les empêchait de prendre la place d'humilité et de recevoir la bénédiction et l'honneur de Dieu en reconnaissant leur condition réelle de pécheurs. Moïse, en qui ils professaient espérer, était leur accusateur. S'ils avaient vraiment cru Moïse, ils auraient cru Christ, car Moïse a écrit de Christ. Le Seigneur termine ce discours en rendant un témoignage remarquable à l'importance et à la valeur des écrits de Moïse. Il attache une valeur plus grande à la forme sous laquelle les communications de Moïse sont données qu'à celle de ses propres communications. Les communications de Moïse étaient écrites, les siennes orale. Les écrits de Moïse et les paroles du Seigneur avaient une même autorité divine, mais la valeur permanente de ce qui est écrit, par inspiration, est supérieure aux communications inspirées faites de vive voix.